Radio Royan-Vercors aujourd'hui est à Rancurel dans un site assez exceptionnel. Nous sommes au Musée international de l'art postal, le MIAP de son acronyme, en compagnie de Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Charlène.
Alors Christophe, tu es le fondateur du Musée international de l'art postal. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce musée avec tes mots ? Là on se trouve à l'intérieur, il y a pas mal de choses autour de nous. Peut-être nous raconter son histoire, comment est-ce qu'il est apparu à toi ce musée ?
Pour commencer, on va résumer en un mot ce que c'est que l'art postal. J'ai un de mes correspondants qui a l'habitude de dire « l'art postal, c'est tout ce qui te passe par la tête et qui arrive par la poste ». Donc un objet un peu incongru, ça peut être une lettre tout simplement joliment écrite avec un joli timbre, ça peut être un petit dessin, ça peut être un collage, mais ça peut être aussi un objet un peu bizarre, plus c'est amusant et mieux c'est, on aime bien ça. Donc je pratique l'art postal depuis plus de 10 ans. Cette histoire a commencé à Lyon, j'habitais à Lyon, je prenais des cours de calligraphie. Et dans ces cours de calligraphie, bon, évidemment, on apprenait à faire des belles lettres. Et puis un jour, il nous parle du mail art. Je ne connaissais pas ce mot, mail art, art postal. Il nous montre des choses, c'était vraiment très joli, très sympa. J'ai envie de m'amuser avec ça. Et donc, je commençais à écrire aux familles, aux amis, les anniversaires, Noël, jour de l'an, etc. Et de fil en aiguille, je me suis vraiment pris au jeu. J'ai découvert cet univers à travers d'autres personnes, notamment des sites internet, des choses comme ça, qui m'ont permis d'accéder à d'autres personnes et de recevoir du courrier. J'ai commencé à recevoir du courrier vraiment tout à fait comme ça, spontanément. Des gens m'ont écrit parce qu'ils ont découvert un jour mon adresse quelque part, parce que je commençais un petit peu à me faire connaître à droite à gauche, soit en exposant, soit en rencontrant d'autres personnes. Et petit à petit, ça fait effet boule de neige, c'est-à-dire plus on écrit, plus on reçoit de courrier. Aujourd'hui, j'en ai peut-être plus d'un millier, et je me sers donc de ce petit chalet que j'ai acquis il y a 4 ans maintenant, que j'ai restauré et que j'ai équipé. Je me suis dit, tous ces courriers, plutôt que de les encaisser dans des boîtes, autant les montrer sur des murs, les afficher. Et puis donc, c'est comme ça que le MIAP est né.
Donc ça fait 3 ans que tu exposes, et chaque année donc, est-ce que tu changes tes expositions ? Est-ce que les collections se renouvellent ? Parce que j'imagine que tu continues à recevoir du courrier quotidiennement. Là autour de nous, il y a une sélection aussi, j'ai l'impression qu'il y a une thématique des courriers qui sont reçus.
Effectivement, je change mes collections pour 2 raisons, c'est que je reçois du courrier constamment, donc il y a tout le temps des nouveautés. Et la deuxième, c'est que ce petit chalet, il n'est pas chauffé, il est un petit peu rustique. Et quand il y a 1 mètre de neige sur le toit, c'est pas très bon pour ses œuvres. Donc je les démonte à l'automne, je les range soigneusement dans ces petites boîtes. Et au printemps, j'ai le plaisir de réouvrir mes boîtes et de montrer à nouveau des nouvelles choses, tant qu'à faire changer. Je fais aussi des encadrements pour en mettre certaines en valeur. J'essaye de les classer, de les ranger un petit peu par thématique. L'année dernière, j'avais vraiment fait des thématiques super. J'avais la thématique de la poste, de la calligraphie, du timbre, du faux timbre, des objets insolites, des mail art en tissu. Il y avait une collection que j'avais appelée de la boîte aux lettres à la boîte à ordures. C'était du recyclage, voilà, des gens qui me faisaient des choses avec des boîtes de conserve, des boîtes de camembert, des boîtes de pizza. C'était très amusant.
Ce musée international de l'art postal, dans son nom, il y a international. Pourquoi cette dénomination ?
Bon, c'est un petit peu prétentieux, mais quand même, je peux dire que je reçois du courrier du monde entier. Je reçois du courrier de pratiquement tous les pays d'Europe, des États-Unis, Japon, Afrique du Sud, Afrique du Nord, vraiment Russie, Canada. Vraiment, j'ai pas la quantité de pays qui m'ont écrit, mais il y en a quand même pas mal. Donc d'où cette dénomination un petit peu excessive, surtout quand on voit le lieu. Il y a quand même 12 mètres carrés d'exposition, c'est pas très grand. Mais international, oui, je trouve. Et puis je trouvais que MIAP, c'était plus sympa que MAP, qui fait plutôt penser à un logiciel de géographie.
C'est vrai. Et ce musée, donc, comme tu le précisais, donc c'est une exposition qui se trouve dans un chalet au bois, dans ton jardin, face aux belles falaises de Rancurel. Ça vaut le détour et c'est dans ton jardin, donc c'est un musée privé, j'imagine. Est-ce que les touristes, les visiteurs, les habitants du Royan, du Vercors peuvent venir visiter, donc pendant les horaires d'ouverture, j'imagine. Ce musée, est-ce que tu pourrais nous préciser ça ?
Absolument. Mon musée est ouvert au plus grand nombre. Hein. L'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir le bazar de Saint-Martin. Et ça m'a amené beaucoup de personnes. Il y a eu des visiteurs à cette occasion. Et j'ai pu donc avoir plus de 100 visiteurs l'année dernière sur la période de l'été. J'espère en avoir plus cette année. Et donc oui, ouverture effectivement à tous. J'ai à l'entrée une petite carte, une petite affiche qui attire l'œil. Parfois, il y a des randonneurs qui s'arrêtent, ils regardent, tiens, qu'est-ce que c'est ? Si je suis dans mon jardin, je leur dis bonjour, ça vous intéresse, venez visiter. Il y a des fois des gens qui me téléphonent spontanément parce que je suis inscrit donc sur les documentations de l'Office du tourisme de Saint-Marcellin. J'ai déjà eu une première interview à France Bleu, Drôme Ardèche. Un peu de publication assis à droite à gauche, le Dauphiné, etc. Donc je commence à être un petit peu connu. Donc des gens m'appellent, des gens viennent spontanément, des gens m'écrivent. Si je suis ouvert, si je suis là, je fais visiter avec grand plaisir.
Et donc on va revenir un peu sur cet art postal, cet art de la correspondance. Là, ce qu'on voit autour de nous, c'est principalement des enveloppes qui sont dessinées, sur lesquelles il y a du collage, des enveloppes de tout format. J'imagine qu'il y a aussi des cartes postales qui doivent se trouver à gauche, à droite. Il y a des formats aussi qui sont un peu plus étonnants, qui sont en relief, qui ont d'autres matières que du papier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où ça vient, cet art postal ? Est-ce qu'il y a une histoire particulière ? Est-ce qu'il y a des restrictions aussi ? Parce que ça passe par la poste. Est-ce que tout peut passer par la poste ?
Alors, tout ne peut pas passer par la poste. Les objets dangereux... tranchant, ça ne passe pas. Les objets qui sont putrescibles, je veux dire, on va pas envoyer par la poste une poire pourrie une tranche de jambon, ça non, ça se fait pas. En revanche, tout ce qui est évidemment papier, carton, bois, il y a pas loin d'ici à Autran, une artiste qui s'appelle Isabelle Raquin qui avait inventé un concept, c'était l'art postal givré. Et l'art postal givré, c'était quoi ? C'était faire de l'art postal sur des boîtes de frigo. Sur des portes de frigo, pardon. Oui, donc elle envoyait des portes de frigo décorées avec... Donc elle a son style, elle a ses dessins, elle timbrait. Bon, ça lui coûtait certainement une blinde parce que c'est quand même un petit peu lourd. Mais en tout cas, elle envoyait des portes de frigo, donc ça fait quand même une certaine dimension. Mais comme ça, pas emballé, c'était pas un paquet, c'était pas un colis. C'était vraiment une porte de frigo avec l'adresse, tous les timbres qu'il fallait. Et voilà. On a quoi ? Oui, j'ai dit du bois. Tout à l'heure, j'ai parlé de tous les produits recyclés, toutes les boîtes de conserve, les emballages, les bouteilles en plastique. Bon, vraiment, j'ai eu des trucs incroyables. J'ai une plaque de tôle rouillée, hein, qui est en gros dessus l'art postal, ça dérouille la vie ou un truc comme ça. On aime bien les jeux de mots, on aime bien s'amuser.
Et là, donc, on remarque que le point commun entre toutes ces formes d'art postal qui sont exposées, c'est la présence d'un ou plusieurs timbres, une adresse. C'est le minimum, j'ai l'impression, pour que quelque chose soit envoyé par la poste. D'ailleurs, les postiers et les postières doivent bien se régaler en voyant passer tout ça. Là, ce qu'on a autour de nous, justement, il y a beaucoup de dessins, de peintures, de collages. Il y a une thématique, tu me disais, pour cette année, qui est connectée à un événement. Est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Oui, je vais vous parler de la JMFTA. La JMFTA, c'est la Journée mondiale du faux timbre d'artiste. Donc c'est un événement qui a été initié par un de mes correspondants, Voironnais, qui s'appelle Tony Mazzocchin. Donc un Vénitien assez fantasque, qui aime bien les challenges artistiques un peu exceptionnels, un peu hors du commun. Il a inventé il y a 15 ans maintenant la JMFTA. Et donc je suis cet événement tous les ans, parce que tous les ans c'est envoyé à une adresse différente. Voilà, ça a été envoyé l'année dernière en Suisse, au musée de la machine à écrire, à Lausanne. Et cette année j'en suis le récipiendaire et j'en suis vraiment très fier, parce que c'est quelque chose que j'espérais vraiment. Donc Tony demande tous les ans à ses correspondants d'envoyer un courrier à une adresse, un courrier artistique, affranchi avec un faux timbre. On appellera plutôt ça un timbre d'artiste parce que c'est pas une contrefaçon, ce n'est pas une copie d'un timbre de la poste, c'est vraiment un timbre inventé totalement, qui peut être complètement, complètement foutraque ou qui peut être d'un réalisme bluffant. Et donc c'est ça qui fait la définition de la JMFTA, c'est que les courriers sont affranchis avec des faux timbres. Et Tony a même le culot de rajouter dans sa demande à ses correspondants « Surtout ne mettez pas de vrai timbre, vous seriez disqualifié. »
Et donc c'est une journée de partage, il n'y a pas de compétition, enfin il n'y a pas d'élection du plus beau faux timbre. Mais en tout cas, il y en a une grande diversité en face de nous. Il y en a qui sont dessinés, il y en a qui sont peints, imprimés. Et la majeure partie de l'art postal que tu exposes fait référence à des tableaux de l'histoire de l'art. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette thématique ?
Bien sûr. Donc Tony, il donne une thématique en général tous les ans. L'année dernière, c'était la thématique de la machine à écrire, puisque c'était pour le musée de la machine à écrire. Et il a choisi pour le MIAP le thème de l'art, puisqu'il a dit à ses correspondants « Revisitez, comme vous le souhaitez, une œuvre que vous aimez ou que vous détestez ». Donc ici, bon bah, il y a des Jocondes, il y a des Monet, il y a des Frida Kahlo, il y a un peu tout type d'artistes, et chacun a revisité à sa façon, soit Hopper, soit voilà Miro. On retrouve un petit peu tous les grands classiques de l'art de toutes les époques, et donc qui a été revisité effectivement par mes correspondants à chacun à leur manière.
Et en parlant de faux timbres et d'envoi à l'international, ces faux timbres d'artistes, donc ils ont tous des formats et des formes différentes, est-ce qu'ils arrivent forcément ? Est-ce qu'il y a une obligation de la Poste de t'acheminer ces faux timbres ?
Alors non, la Poste n'est pas obligée. La Poste en général fait le job, elle fait vraiment bien son travail, et on peut la remercier pour ça. Mais hélas, c'est vraiment très flagrant que ces timbres n'existent pas, que ce ne sont pas des courriers qui sont normalement affranchis et que la Poste fait le travail mais qu'elle n'a pas été payée pour ça. Donc malheureusement, j'ai eu mon facteur qui est venu me voir en me disant « j'ai pas une bonne nouvelle parce que tous les courriers arrivent en même temps, c'est pas très discret » et il dit « va falloir payer une taxe ». C'est que j'ai dû effectivement, j'ai été contraint de payer l'amende. Heureusement, il y a eu beaucoup de solidarité avec tous les correspondants. J'ai reçu un petit peu d'argent, un petit peu de timbre. J'ai même une de mes correspondantes qui m'a fait plein de dessins que je pourrais vendre, m'a-t-elle dit, pour payer l'amende à sa manière.
Donc c'est accepter aussi une certaine forme de prise de risque que d'envoyer et de recevoir d'ailleurs cet art postal. De manière internationale, ça passe aussi les frontières.
Absolument. Ça ne vient pas très très loin, mais enfin, il y a pas mal de pays frontaliers. L'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Belgique ont participé. Voilà, donc j'ai reçu pas mal de courriers parmi tout cela qui viennent de l'étranger. Et donc voilà, les réseaux sont divers et variés. On finit par rencontrer des gens qui disent « tu connais un tel, bah tiens, je te donne son adresse ». Et puis voilà, ça tisse des liens essentiellement à travers la correspondance écrite, plus que par le clavier et l'ordinateur.
Ouais, j'allais rebondir là-dessus, parce qu'avec l'arrivée des mails qu'on pratique tous et toutes au quotidien et qu'on envoie un peu comme ça, juste en appuyant sur une touche, l'art postal, le fait d'envoyer et de tisser une correspondance, d'entretenir une correspondance, c'est aussi prendre plus de temps, c'est aussi choisir une couleur d'encre, c'est aussi choisir comment on va écrire. C'est prendre le temps finalement aussi d'échanger, de mettre en forme. Est-ce que toi, tu as vu une évolution, parce que tu dis que ça fait 10 ans que tu pratiques l'art postal, en 10 ans, la place du mail a pris aussi de plus en plus de place justement dans nos quotidiens. Est-ce que ça a impacté un peu cette pratique de l'art postal ou est-ce qu'il en reste ?
Moi, je crois au contraire que ça donne plus d'importance à l'art postal. Le fait qu'effectivement, on n'ait qu'à cliquer sur un bouton pour envoyer un smiley, c'est très rapide, ça ne mange pas de pain, c'est vite envoyé, c'est vite oublié. L'art postal, c'est vraiment un cadeau. J'ai des artistes ici qui sont des artistes professionnels, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais voilà, je te montre quelque chose. Là, c'est un artiste d'Aubervilliers, il s'appelle Éric Meyer. C'est vraiment un artiste reconnu. Et là, pour moi, ça, c'est un cadeau, c'est magnifique ce qu'il m'envoie. Je suis vraiment très flatté quand je reçois des choses de ce garçon. Il y en a d'autres comme ça, je ne vais pas tous te les citer, mais vraiment, même pour quelqu'un qui fait quelque chose de modeste, c'est toujours un cadeau parce qu'il a pris du temps pour te le faire. Donc c'est une attention, vraiment. Et ce que le mail, le clic ne fera jamais, c'est-à-dire que envoyer un petit coucou avec un petit smiley, c'est rigolo, mais ça ne reste pas.
Ouais, et là, du coup, il y en a combien qui sont exposés pour cette exposition, donc 2025? C'est du courrier que tu as reçu en 2024?
Tout ce que j'ai reçu en 2024 est là. C'est 300 pièces. Bon, mon petit chalet ne fait que 12 mètres carrés, il ne peut pas en accueillir davantage, mais c'est déjà pas mal. On peut passer du temps à tous les regarder, ils sont tous très différents. Il y a des choses très. Il y a de la poésie, il y a de la beauté, il y a beaucoup d'humour, il y a des fantaisies, c'est très, très, très chouette. Moi, j'aime bien, je m'en lasse pas. Même si je connais tout ça par cœur, je le regarde toujours avec grand plaisir.
Pour conclure cette interview, j'avais aussi envie de préciser les différents événements qui vont être liés à ta pratique et à la fois d'exposition, à la fois ta pratique d'art postal, puisque tu vas exposer en dehors de ton chalet également très prochainement.
C'est exact. Je vais exposer donc de l'art postal timbré avec des faux timbres, pas la collection de la JMFTA 2024, mais d'autres faux timbres parce que j'en reçois aussi tout au long de l'année, en dehors de cet événement. J'ai donc une collection de mail art faussement timbrés que je vais exposer à la Grange Ouverte à Saint-Martin-en-Vercors, à la Grange de Michel Fontaine. Et à cette occasion, j'invite deux artistes, donc un street artiste viennois qui s'appelle Frog et un illustrateur du Pays Voironnais, de Coublevis, qui s'appelle David Trouilloux, qui vont exposer dans les mezzanines au-dessus. Et donc cette exposition aura lieu du 9 au 15 juin. Le 9 à 11 heures, il y aura le vernissage, suivi d'un spectacle de danse folklorique. Voilà, ça va être très sympa, j'espère qu'il y aura du monde.
Et oui, tu es lié un peu à cette grange et aux diverses activités de Michel Fontaine, puisque tu as participé l'année dernière au bazar aussi. Et tu me disais que juste après, il va y avoir fin juin un autre événement.
Oui, effectivement, la JMFTA, j'y reviens, elle se conclut souvent par une fête, donc une exposition déjà, et puis si possible des événements autour. Donc cette année, déjà avec Christine, mon épouse, nous avons créé une association qui s'appelle La Vie en Lauze. On habite à Rancurel dans le quartier de la Lauze. La Vie en Lauze, ça fait un petit peu référence à La Vie en Rose d'Édith Piaf. Et donc pour cette journée du 28 juin, nous allons ouvrir le musée à la visite, mais pas que. Il va y avoir dans le jardin une déambulation avec des boîtes aux lettres d'artistes. J'ai fait customiser par des artistes une trentaine de boîtes aux lettres. Ça sera l'occasion d'une visite, de faire un jeu. Il y aura aussi un jeu de piste dans le village, toujours avec des boîtes aux lettres. On reste sur la thématique de la poste. Dans chaque boîte aux lettres, il y aura des énigmes, donc un petit jeu auquel les gens, j'espère, participeront. Il y aura donc quelques ateliers, ateliers de carnet d'artistes, ateliers d'origami. Il y aura un risotto géant. Donc un risotto géant fabriqué par l'ami Tony, qui sera là, Tony Mazzocchine, donc le fondateur de la JMFTA. Il y aura un concert l'après-midi avec Cacophonie. Il y aura un concours de dactylo organisé par Jacques Perrier du Musée de la Machine à Écrire de Lausanne. Le soir, Michel Fontaine va nous présenter sa pièce Benjamin Facteur Grand Voyageur. Vous voyez qu'on est toujours dans le thème. Et puis fin de soirée avec soirée chanson française, Thierry Grenier, donc mon ami lyonnais, qui viendra animer une soirée avec sa guitare. Il va chanter, il va faire chanter le public aussi. Et on finira par un buffet géant, donc à la salle communale, la scie de Rancurel, à la Balme de Rancurel.
Ouais, c'est un beau programme bien complet pour cette journée mondiale du faux timbre d'artiste, on le rappelle la JMFTA, donc qui c'est le 28 juin à Rancurel. C'est un événement qui est gratuit?
Qui est gratuit, le risotto ne l'est pas, vous vous en doutez bien, il y aura aussi une buvette, des crêpes, les spectacles, le concert, théâtre, ce sera au chapeau. Voilà, pour le reste, effectivement, c'est gratuit, c'est ouvert à tous et venez passer un bon moment de 10 h à le soir, sans doute 22 h ou plus.
Et donc ça fait deux belles occasions de venir te rencontrer et de venir un peu découvrir cet art postal. Donc on le rappelle à la Grange Ouverte à Saint-Martin-en-Vercors du 9 au 15 juin. Et puis après le 28 juin pour cette belle programmation à l'occasion de la JMFTA. Et d'ici là, si d'autres personnes veulent vous contacter, est-ce que vous avez une présence sur Internet, est-ce que tu as des coordonnées, est-ce que tu as une adresse à nous renseigner?
Bon, il y a mon mail, basile.toff@gmail.com et un téléphone 06 77 25 99 05.
On les remettra dans le lien de l'article qu'on va consacrer donc à cette interview sur le site internet de Radio Royan, donc radioroyan.fr. Et d'ici là, donc on ne peut que vous inviter à venir découvrir ce musée international de l'art postal à Rancurel. C'est une belle balade à faire avec les enfants, en famille, pour tous les curieux et les curieuses. C'est aussi une bonne manière de redécouvrir un peu le lieu où on habite, de faire une petite balade à Rancurel. Merci beaucoup, Christophe.
Je t'en prie, Charlène, avec plaisir. À très bientôt.